Le message d'aujourd'hui va venir en continuité de ce que nous avons déjà commencé il y a 2 semaines. C'est que nous allons survoler l'évangile selon Marc, Saint Marc. L'idée, c'était que ce que nous partageons ensemble durant la semaine, ce qu'on appelle réunion d'études le mardi soir, eh bien, ce que le Seigneur a permis que nous comprenions, que nous décidions, eh bien, nous le partageons avec les frères et sœurs ici dimanche matin. Il y aura certainement toujours quelque chose qui s'ajoute, puisque je reprends ce que nous a fait le mardi et je le retravaille le week-end. Mais nous sommes partis sur l'évangile de Marc, qui est un évangile de l'annonce de la bonne nouvelle. Dès le premier verset de l'évangile selon Marc, et je vous invite à le lire d'ailleurs, c'est l'évangile le plus court, mais le plus explicite, le plus simple à comprendre. C'est celui qui transmet la bonne nouvelle d'une manière simple. D'ailleurs, il s'adresse à Monsieur Tout-le-Monde. Ce n'est pas l'évangile de Matthieu qui s'adresse aux érudits, aux juifs qui connaissent la parole, aux théologiens. Pas du tout. Ce n'est pas l'évangile de Luc. Alors là, on va dire, c'est le scientifique, le cartésien qui, voilà, qui mesure. Vous voyez ? Pas du tout. Ce n'est pas l'évangile selon Saint Jean. C'est ce qu'on appelle l'évangile céleste. Alors là, il nous parle de Jésus au ciel. Non. Marc, c'était un compagnon de Pierre et de Paul qui a résumé la nouvelle alliance, la bonne nouvelle. Il l'a transmis simplement à des gens qui n'ont aucune éducation intellectuelle, mais qui partent au cœur. Dès le premier verset de l'évangile de Jean, je lis « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Et bien ce premier verset, c'est le titre de tout l'évangile. Marc, il est en train de nous dire, voilà la bonne nouvelle, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et bien maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est. Lisez le reste. C'est cela, l'évangile de Marc. Je vous ai invité aussi à une lecture un peu différente de ce que nous faisons d'habitude. Je parle de ma culture, on va dire culture hébraïque, sémite, si vous voulez. C'est qu'il y a différentes manières de lire la Bible. Souvent, nous nous contentons d'effectuer une lecture littérale de la Bible. Une lecture historique. Elle est bonne, mais il faut dépasser cette lecture. Il y a d'autres niveaux de lecture. Il y a la lecture allégorique. Quand la Bible parle, par exemple, du déluge, quand on nous parle de la montagne, c'est une façon allégorique pour nous dire un message qui se cache derrière. Il y a d'autres lectures. Il y a des lectures mystiques, encore une fois. C'est pourquoi ce matin, la prière, c'est qu'au-delà des mots, au-delà de l'histoire, qu'est-ce que cette parole de Dieu veut me dire dans mon cœur? C'est ça le plus important. Par rapport à ma vie chrétienne, est-ce que ça a un écho? Qu'est-ce qu'elle m'explique? Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est cette lecture-là que je vous invite à effectuer avec l'aide de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un événement que tout le monde connaît. Mais la question qu'on doit se poser, qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans mon cheminement en tant que chrétien? C'est ça la question qu'il faut se poser, pas seulement pour avoir une culture historique ou scientifique. Et bien, je vous invite à lire Marc 1, versets 9 à 13. Marc 1, versets 9 à 13. En ce temps-là, Jésus de Nazareth en Galilée, Jésus vint de Nazareth en Galilée. Et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, c'est très interdit, aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Voilà un passage qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous au-delà de cette histoire que nous connaissons? On sait, Jésus s'est fait baptiser dans le Jourdain. Il est sorti, le Père lui a parlé, lui a dit « Tu es mon fils », après il est parti dans le désert, 40 jours. D'accord, du moment qu'on le sait, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça fait dans ma vie chrétienne? Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà le début de cet évangile. L'annonce de la bonne nouvelle à toute l'humanité. Marc est en train de crier, en train de dire, vous les humains de tous les siècles, de toutes les générations, je veux vous annoncer Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, le Sauveur du monde. Jésus-Christ est annoncé comme notre devenir, notre raison d'exister. Dès qu'on est sorti du ventre de notre mère, Dieu veut, avec le temps, nous faire rencontrer son Fils, Jésus-Christ. C'est un objectif vital. Ce n'est pas une option. C'est un objectif vital si nous voulons rester, vivre dans l'éternité. C'est un objectif vital pour chaque être humain. C'est une cible. C'est une cible pour chaque personne, pour chaque humain, qu'il ne faut pas rater. Une cible à ne pas rater. Synonyme du mot hébreu, péché. S'il y a un péché qu'il faut éviter, c'est de rater la rencontre avec notre Seigneur. Mais la question qui se pose à nous, chrétiens, rassemblés ce matin, est la suivante. À quel moment pourrais-je dire que j'ai atteint cet objectif divin? À quel moment je peux dire j'ai atteint la cible, je n'ai pas raté la cible? Est-ce depuis le jour de ma conversion, c'est-à-dire le jour que j'ai accepté d'accueillir le Seigneur dans mon cœur? J'ai dit, Seigneur, maintenant je reconnais, j'ai besoin de toi, viens habiter dans mon cœur. Est-ce le jour où j'ai répondu à l'appel de Dieu en m'invitant à le vivre, à le rencontrer? Est-ce le jour où j'ai décidé de devenir un disciple de Christ? Est-ce le jour où, à titre personnel, j'ai décidé de quitter ma religion maternelle pour dire, Seigneur, c'est toi que je veux? Si c'est le cas, l'apôtre Paul nous rappelle, à travers sa lettre aux Galates, et je vous invite à lire Galates 4, verset 19, voilà ce qu'il dit l'apôtre Paul à l'église de Galates. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Formé en vous. Il n'est pas question de début. Il est question de processus jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc l'objectif de Dieu, pour nous, c'est non seulement l'accueillir et le recevoir dans notre cœur par un acte de foi, mais aussi et surtout le laisser se former en nous. C'est ce que le Seigneur appelle, nous l'avons vu tout à l'heure, nous l'avons chanté, la porte étroite. C'est-à-dire le chemin serré et étroit qui mène à la vie. Il n'y a pas de vie si on ne passe pas par ce chemin étroit. Nous pouvons essayer de passer à gauche, à droite, mais nous n'atteindrons pas la vie. On atteindra un semblant de vie, mais il n'y a pas d'éternité. Peu de gens choisissent ce chemin. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, où le Seigneur parle de ce chemin. Il est bien question d'un cheminement personnel dans chacun de nous, dans chaque chrétien. Il est bien question d'une expérience de la marche avec le Seigneur pour qu'il se forme en nous. Donc l'objectif de notre Créateur, de notre Dieu, pour chaque personne, c'est non seulement une réponse à son appel pour le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur, mais aussi et surtout de cheminer avec lui à travers une expérience pratique et progressive dans la repentance et dans le dépouillement, jusqu'à ce qu'il se forme en nous, comme il dit l'apôtre Paul à l'église de Galates. moins de nous, plus de toi, Seigneur. Tous les jours, moins de nous, plus de toi. Jusqu'à la métamorphose finale, on aura quitté ce corps. Là, c'est pour l'éternité. Cet objectif divin pour l'humanité, pour chaque homme, pour chaque femme, est annoncé dès le premier livre de la Bible. Le livre de la création, la Genèse. Dans Genèse, chapitre 1, verset 27. Vous voyez, on est tout début de la création, tout début de la Bible. Voilà ce que Dieu dit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Et il précise, il créa l'homme et la femme. Tout le monde. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu depuis le début de la création du monde. Une réalité qu'on trouve dans d'autres passages de la Bible, comme dans Jacques, l'épître de Jacques, chapitre 3, versets 8 et 9. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, écoutez bien, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Un autre passage, dans Genèse, chapitre 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Cette image promise est annoncée dès le début de la création, dès le livre de la Genèse. Ce n'est rien d'autre que le Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Comment nous le savons? Eh bien, je vous invite à lire Colossiens. Le livre de l'apôtre Paul envoyé à l'église de Colosse, les Colossiens, chapitre 1, versets 15 et 16. Voilà ce qu'il écrit. Il, c'est-à-dire Christ, Christ est l'image du Dieu invisible. Et tu l'as lu ce matin, Corinne. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Nous sommes créés à l'image de Dieu pour revêtir Christ qui est la véritable image du Père sur terre. Voilà le devenir de chaque être humain, de chaque personne. Et si nous ratons cette cible, nous avons tout raté. Romains, la lettre Saint Paul aux Romains, chapitre 8, versets 28 et 29. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, écoutez bien, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà notre devenir en tant que chrétien. D'ailleurs, toute l'humanité est appelée à cela. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Encore un autre passage. Il y en a d'autres, je vous donne juste ceux qui m'ont plus parlé. Dans Éphésiens, chapitre 4, versets 20 à 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » C'est-à-dire l'image de Dieu, c'est-à-dire Christ. Nous devons revêtir Christ en nous, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Cette image promise par Dieu à l'humanité, valable encore de nos jours, est devenue dynamique, doit devenir dynamique, grâce au souffle divin mis par Dieu dans chaque être humain. Chaque personne qui naît possède ce souffle de Dieu. Et c'est un souffle qui est effectué dès le début de la création. Je vous fais voyager encore dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, je lis. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dès le début, Dieu a mis un souffle dans l'homme. C'est un souffle dans la culture hébraïque, si on prend la langue hébreu. En fait, c'est un souffle vide. Il a soufflé dans l'homme un vide. Mais c'est un vide qui l'interpelle vers son créateur. C'est pourquoi même les athées qui disent qu'on ne croit pas en Dieu, quand un malheur leur arrive, la première chose qu'ils disent, « Oh mon Dieu !» Alors qu'ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est qu'il y a ce souffle qui est en eux, ce vide que Dieu a créé en eux, qui les interpelle toujours vers leur créateur, mais ils ne savent pas le nommer. Ils sont en perpétuelle recherche. Il a fallu attendre le Nouveau Testament, la venue du Seigneur Jésus-Christ, pour que ce vide soit comblé par l'Esprit Saint. Et c'est Jésus lui-même qui l'a fait, cet acte. Et je vous lis un passage que vous connaissez dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 21-23. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Il leur a dit quand il a ressuscité, hein, après sa résurrection. Mais avant de monter, avant l'ascension, il a ressuscité. Il a rencontré ses disciples et leur dit. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux. Voilà le deuxième souffle. Le premier de la Genèse, voilà le deuxième. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés, et ceux à qui vous le retiendrez ils leur seront retenus. » Voilà encore un devenir, à l'image du Seigneur. Entre les deux, l'ancien Adam et le nouvel Adam, la mort a régné dans ce monde. C'est pourquoi nous sommes appelés à passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Mais nous n'en avons pas le pouvoir ni la capacité. Cette libération est rendue grâce à Christ, Fils de Dieu, qui est le premier passé de la mort à la résurrection. Il est devenu notre chemin, notre vérité et notre vie. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21 et 22. Je vous lis. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Nous sommes appelés à passer de la mort à la vie. » C'est cela la bonne nouvelle du Christ, du Fils de Dieu, le premier verset de l'évangile de Marc. C'est le titre à donner à cet évangile, comme je vous l'ai dit. Si nous revenons maintenant à ce passage qui nous concerne, concernant le Seigneur Jésus-Christ, qui est appelé à passer dans le désert, comme si le cheminement de chacun de nous, ça doit être d'abord rentrer dans cette vie de désert. Souvent, nous croyons, quand on est chrétien, nous recevons le Seigneur, ça y est, tout est fait, nous avons l'éternité. Et bien, le Seigneur nous donne par son cheminement que ce n'est pas ça. Nous nous trompons. Ce n'est pas parce que j'ai confessé le Seigneur, je l'ai accueilli dans mon cœur. Ce n'est pas parce que je suis baptisé que ça y est, tout est fait. Non. Il nous dit, il faut traverser le désert. Et quand il est rentré dans le désert, il est question, il a passé 40 jours. 40 jours et 40 nuits à jeûner, tout en étant tenté par le diable. Il est parti dans le désert, il a vécu dans le désert en jeûnant durant 40 jours et 40 nuits. Alors la question que nous devons nous poser, mais qu'est-ce que ça veut dire déjà les 40? C'est quoi les 40? Et après, pourquoi le désert? Pourquoi il n'est pas allé dans un endroit, il y a de la verdure, tout ça? Et bien le chiffre 40 dans la Bible, ce n'est pas un chiffre à prendre au premier degré. Dans la culture hébraïque, les chiffres ont un sens. Dans les cultures antiques, par exemple, si on quitte la culture hébraïque, qui a influencé beaucoup de civilisations, les cultures antiques, le nombre 40 revient très, très fréquemment dans les rites funéraires et le culte des ancêtres. Par exemple, le pharaon n'était enterré que 40 jours après sa mort. Car ce temps était consacré à la préparation de son grand voyage. Il en fut d'ailleurs de même pour Jacob, dans l'Ancien Testament. Les médecins au service de Joseph embaumèrent son corps durant 40 jours. Genèse chapitre 50, verset 3. Nous parlons aussi de la quarantaine. Je crois que c'est à notre époque qu'on parle de la quarantaine. C'est un symbole pour dire il faut être sûr, apte d'être en bonne santé pour intégrer son milieu. Le chiffre 40 revient souvent, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il semble signifier un temps de méditation, de confrontation avec soi-même. Il signifie aussi un temps d'épreuve. Ainsi, le déluge se prolonge pendant 40 jours et 40 nuits. Le temps du passage à une humanité nouvelle. Les Hébreux séjournent 40 ans dans le désert, le temps nécessaire pour que la génération infidèle soit remplacée par une autre. Moïse reste 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï. Élie a fui Jézabel, il a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb. Et je peux en citer d'autres exemples. Et le Seigneur a suivi ce chemin indispensable avant de commencer son ministère parmi nous. Jésus a été tenté tout en jeûnant pendant 40 jours et 40 nuits. Jésus est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Les 40 jours, mes frères et sœurs, représentent le remplacement d'un état par un autre. Le remplacement d'une période par une autre. Le remplacement d'une durée, d'une génération par une autre. C'est le remplacement de l'ancien Adam par le nouvel Adam. C'est l'œuvre de restauration qui est le fruit de l'œuvre de la croix dans notre vie. C'est cela, les 40 jours. Quant au désert, le désert en hébreu se dit midbar. Midbar. Désert. C'est un mot qui vient de dabar, qui signifie parole, discours, commandement. Mais il veut dire aussi conduire, parler. Midbar peut être traduit aussi par bouche, la bouche. Mais tout ça, c'est le mot désert. Il n'est pas étonnant, par exemple, de des passages dans l'Ancien Testament, nous lisons comme dans Nombre, chapitre 1, verset 1, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, comme si le désert, c'était l'endroit idéal pour que Dieu parle et qu'on l'entende. Donc le désert, même s'il nous paraît aride et chaotique, il se présente comme un lieu où résonne la parole de Dieu. Mais s'il n'est pas toujours facile, même s'il n'est pas toujours facile de savoir la parole de qui, est-ce de Dieu ou des faux dieux? Dans le désert, l'homme expérimente ses limites de manière très concrète. Tout ce qui est important pour la vie humaine, y fait défaut. Le désert se présente comme un contexte salvateur. Il fait naître en l'homme le besoin de remplir le vide qui l'envahit. Le désert est un contexte de confrontation avec soi-même qui doit mener l'homme à un questionnement permanent sur le sens à donner à sa vie. Dans le texte hébreu du prophète Osée, dans Osée chapitre 2 verset 14 à 19, mais je ne vous lis pas tout, le séjour prolongé au désert est présenté comme le temps de fiançailles. Je vous lis. Osée 2, versets 14 à 19, mais je ne vous lis pas tous les versets. D'abord 14 et 15. « Je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. » Et au verset 19, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Les fiançailles sont une période transitoire qui précède le mariage. La période du désert est donc envisagée comme une préparation au mariage. Il ne s'agit pas d'endurer la chaleur de ce lieu aride comme une punition. Dieu attend plutôt son peuple comme un fiancé attend avec impatience sa future épouse. Le désert est le temps d'attente et de préparation en vue d'un événement magnifique. Tout ça, le sens du désert. Dieu dit, je vous conduirai au désert et je vous parlerai au cœur. Il faut d'abord passer par le désert pour qu'on soit apte à l'écouter dans notre cœur, loin des tracas du monde. La première génération des Hébreux est morte dans le désert. C'est la deuxième génération qui a atteint la terre promise. Devant nous, il y a deux devenirs en tant que chrétiens. Un qui mène à la mort, la première génération, et un et une qui mène à la vie, c'est la deuxième génération. Si je reprends le peuple hébreu, encore une fois, parce que pour nous c'est un enseignement, l'histoire du peuple hébreu, c'est le cheminement de chaque chrétien. La délivrance des enfants d'Israël de la servitude égyptienne est un objectif divin. Dieu a délivré son peuple pour les amener à la terre promise, afin d'hériter la terre promise. C'est une image prophétique de tous les croyants, de nous les chrétiens. Délivrés de l'esclavage du péché pour hériter le royaume de Dieu. Sur ce chemin, il y aura toujours des pharaons pour nous déstabiliser, comme c'était le cas à l'époque de Moïse. Nous ne devrions pas être étonnés, parce que le mot pharaon, veut dire mauvaise bouche. Voilà le sens de... Par contraction, le mot pharaon veut dire mauvaise bouche. C'est-à-dire, il se glorifie sans cesse et blasphème contre Dieu et contre tout ce qui est sacré. Peut-être, c'est notre quotidien en tant que chrétien. Le peuple a reçu l'appel de la libération par son Créateur. Mais tous n'ont pas atteint la terre promise. C'était un enseignement pour nous. Nous avons reçu l'appel de Dieu. Est-ce que c'est certain que nous atteindrons la terre promise ensemble? C'est la deuxième génération qui est entrée dans la terre promise, pas la première. Beaucoup d'appelés et peu d'élus, a dit le Seigneur. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup reçoivent l'appel, mais peu persévèrent. Et peu acceptent la traversée du désert dans la consécration et la repentance. Peu acceptent de porter leur croix pour suivre le Seigneur. La plupart acceptent l'invitation du Seigneur tout en continuant à vivre selon les convoitises de ce monde. Sans se soucier du fait que le Seigneur veut prendre de plus en plus de place en nous. Il veut être notre priorité, notre raison d'être. Il veut que notre foi soit vivante, témoignant de sa seigneurie dans notre vie. Tout simplement, il veut que le principe de la métamorphose, c'est-à-dire le principe de la croix, mort et résurrection, s'accomplit concrètement en nous et d'une manière progressive et durable. En clair, le Seigneur désire que nous naissions réellement de nouveau. Ah là, un mot, encore une fois. Mais si, je suis déjà né de nouveau! Alors pourquoi ta vie ne reflète pas? Je dis, si je suis né de nouveau, c'est nouveau. Alors pourquoi le nouveau, je ne le vis pas? Une nouvelle naissance, le fruit de la repentance, une nouvelle naissance dans l'esprit, qui ne peut être que le fruit d'une repentance durable et d'une prière vivante et persévérante. Une nouvelle naissance, le fruit de la repentance qui ne peut se réaliser et se vivre concrètement dans notre cœur avec profondeur et conviction que dans le désert, avec souvent des épreuves de différentes natures et différentes intensités. Mes frères et sœurs, nous sommes certes nés de nouveau. Et bien nous devons nous soucier que cette nouvelle naissance porte des fruits. Mais elle ne peut pas porter des fruits si nous n'intégrons pas la repentance dans notre vie. Les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour préparer le terrain pour un accouchement spirituel, que l'apôtre Paul exprime par l'expression que nous avons lue tout à l'heure, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est le prix à payer pour nous libérer de nous-mêmes. Nous réaliserons alors le sens profond de la justification, ce que ça veut dire être justifié. Nous comprendrons profondément le sens et la réalité du sacrifice de notre Seigneur. Nous goûterons réellement au sens du pardon et de la grâce, et ça dépassera le niveau intellectuel parce que ça sera dans notre cœur. C'est tout cela, je le pense humblement, le message des 40 jours et du désert, l'épreuve passée par le Seigneur. Un cheminement indispensable pour chaque chrétien sincère. C'est le chemin de la repentance dans la prière. C'est le chemin de la confrontation dans le silence et dans la prière de notre nature pécheresse avec la sainteté divine. C'est la découverte de notre désert spirituel qui crée en nous une sainte tristesse. Nous sommes appelés à vivre, à expérimenter cette sainte tristesse. Si nous ne l'avons pas expérimentée, ben il nous manque quelque chose. Mes frères et sœurs, est-ce que nous avons vécu la sainte tristesse comme dans les béatitudes ? Heureux les affligés, heureux les pauvres en esprit. Vous voyez, la tristesse, quand on l'a vécue, si on ne l'a pas vécue, prions le Seigneur qu'il nous fasse réaliser cette tristesse, cette sainte tristesse. C'est la découverte de notre désert spirituel qui crée en nous une sainte tristesse qui nous mène à la repentance. Qui nous mène à la repentance. Et par conséquent, il nous mène à la vie. Alors nous comprendrons le sens des béatitudes que je vous invite à lire chez vous dans Matthieu chapitre 5, versets 3 à 12. Et comme le dit si bien l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, Corinthiens 10, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est le seul et unique chemin de la délivrance qui mène à la vie éternelle, où nous réaliserons intérieurement que nous sommes réellement créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire en Christ son Fils. Alors ne ratons pas la cible, mes frères et sœurs. Amen.